Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le jeudi 23 octobre 2025. Je dois vous avouer que ça devient très compliqué. Les marchés ne sont pas ouverts 24 heures sur 24 pour l'instant. Mais si on veut ne rien rater de ce qui se passe, il faut rester vigilant 24 heures sur 24. Ou alors avoir le numéro direct de quelqu'un à la Maison-Blanche qui est bien informé. Déjà lors de son premier mandat, il n'était pas facile de suivre les déclarations de Trump et encore moins facile de réussir à les comprendre. Pas simple d'anticiper les visions d'un homme qui change d'avis comme de chemise à la vitesse de la lumière. Ces 10 derniers jours auront été le parfait exemple de ce comportement extrêmement lunatique, à tel point qu'on a l'impression qu'il est plusieurs dans sa tête. Avant de plonger un peu plus dans la séance d'hier, il faudrait déjà comprendre ce qui fait vibrer le marché. Et visiblement, ce qui déclenche des réactions psychotiques est presque toujours lié de près ou de loin aux décisions de l'homme aux cheveux orange. Il n'y a pratiquement plus un mouvement de marché qui est déclenché par autre chose qu'une publication sur X ou sur Truth Social. Vous pouvez vous rendre vos Bloomberg, résilier vos abonnements à TradingView et arrêter de lire la presse financière. Vous devriez même vous arrêter de me lire ou de m'écouter, puisque finalement, si vous avez un compte Twitter, un compte sur Truth Social, qui sont gratuits tous les deux, ça devrait vous suffire. Bon, si en plus, vous avez un copain à la Maison-Blanche qui peut vous donner des infos sur les sujets que Trump va aborder dans les 4 prochaines minutes, et que vous pouvez traiter du Bitcoin sur un compte qui n'est pas trop surveillé, ça devrait bien se passer, et vous devriez être à la retraite d'ici la fin du mandat présidentiel américain. Le problème, c'est que nous n'avons pas tous un copain bien informé à la Maison-Blanche. Alors en attendant, on se fait balader par les marchés en fonction des déclarations du président américain. Je dois dire que je suis bien incapable de me souvenir quelle était sa position sur la Chine ou sur la Russie il y a 4 jours ou encore hier matin. Et d'ailleurs, ça ne servait à rien puisqu'elle a probablement changé 8 fois entre le petit déjeuner et le dîner. Personnellement, j'ai vécu avec des enfants en bas âge qui n'étaient pas encore capables de contrôler leur vessie, qui étaient capables de conserver le même avis et la même envie pendant bien plus longtemps que Donald Trump. Tenez, si je me trompe pas, ce matin nous sommes jeudi, et si l'on se concentre sur ce qu'il a dit, fait ou laissé entendre rien que sur la Chine, ça n'est vraiment pas simple de suivre le mouvement. Depuis l'histoire des terres rares, il y a 10 jours, on est passé de « je vais lui péter la gueule et lui défoncer ses droits de douane à ce Xi Jinping-Pong » à « ça va bien se passer », à « je l'apprécie », à « je vais leur proposer un deal qui est un super bon deal quand on se verra à Séoul », à « je ne suis pas certain de le voir à Séoul », à « je vais le voir à Séoul », puis à « je ne vais pas le voir », enfin, c'est pas sûr, et puis nous avons dû avoir quand même si je ne le vois pas, c'est pas grave, on va quand même leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. Ensuite, on a eu « on sait où ses enfants vont à l'école », et puis le dernier en date, c'est « on envisage de nouvelles restrictions d'exportation à destination de la Chine ». Et tout ça, c'est sur les 10 derniers jours. Je pense que si on se concentre que sur les relations sino-américaines et que l'on essaye de faire un résumé d'une page à chaque fois que Trump en a parlé, ça donnerait un bouquin tellement épais que la série des Harry Potter aurait l'air d'un livre de poche. Tout ça pour dire que plus personne n'arrive à comprendre où il veut en venir avec la Chine. Et ça, c'est que pour la Chine. C'est la même chose pour la Russie, pour l'intelligence artificielle, pour les semi-conducteurs, pour la gestion de la politique interne aux États-Unis, du shutdown, qui est toujours d'ailleurs en cours, et pour la réglementation sur la taille des pizzas sur l'île de Manhattan, et probablement pour tout ce qui a trait au pétrole, à l'or ou encore aux crypto-monnaies. En fait, pour réussir à tout suivre, il faut être plusieurs, et pour réussir à foutre un tel bordel dans tous les sens, ça n'est pas possible, il ne peut pas être tout seul dans ce corps. Je ne suis pas psychologue ou psychiatre, et je m'y connais pas du tout aux maladies mentales, mais c'est pas possible, il faut lui donner des médicaments et des trucs très forts. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'en dehors des chiffres trimestriels des sociétés qui ont été publiés, et qui sont publiés en ce moment, et qui ont des effets divers et variés sur les sociétés concernées, tout le reste ne tourne qu'autour de Trump et de la Maison-Blanche. Alors oui, pendant quelques jours, le gouvernement français a tenté de faire oublier Trump en montrant qu'il pouvait être largement aussi cinglé que lui, surtout du côté de l'Élysée, où la question psychiatrique se pose de plus en plus. Mais depuis qu'ils ont braqué le supermarché à ciel ouvert du musée du Louvre, la politique française est passée au second plan et Trump se déchaîne. D'ailleurs, si hier le marché a fini en baisse de 1% sur le Nasdaq et de 0,5% sur le S&P 500, c'était principalement à cause des bruits qui circulent comme quoi Trump aurait dans ses cartons un nouveau plan pour restreindre les exportations américaines vers la Chine. Pas seulement les semi-conducteurs, cette fois, on parle de tout ce qui bouge, de l'ordinateur portable à l'avion de chasse, en passant par les casquettes MAGA qui sont fabriquées en Chine. En clair, c'est « si tu veux mes produits, ça sera à mes conditions, sinon je te découpe la paix commerciale entre nous ». Réponse de Pékin, les terres rares, évidemment. Résultat, une nouvelle escalade commerciale potentielle, la 214e depuis le 1er janvier. Et pile au moment où les marchés commençaient à se détendre sur le sujet, c'est le timing parfait. Mais en même temps, tout le monde s'en fout parce qu'on sait tous qu'il va tourner la veste dans les 48 heures, peut-être même moins, et nous en refaire une autre sur la Chine quand il aura fini de s'occuper du quantum computing de la Russie ou des réglementations sur la reproduction des gastéropodes en Nouvelle-Guinée orientale. Oui, je sais, la Nouvelle-Guinée orientale, ça n'existe pas, mais il n'est pas exclu que le président américain l'invente d'ici la fin de la journée. Bref, hier, c'était une séance toute pourrie aux USA, dans le rouge, mais dans le rouge clair. On n'a pas aimé les rumeurs sur la Chine, on a pris des bénéfices sur la tech, un peu, après les chiffres et les déclarations pas top de Netflix et de Texas Instruments, et les intervenants profitaient de l'ambiance un peu morose sur les marchés pour faire le ménage sur les secteurs qui avaient bien performé, le secteur quantum computing, entre autres. Gardez d'ailleurs bien ça en tête, j'y reviens dans quelques secondes. Netflix a donc perdu 10%, Texas pas loin de 6%. Ce qui est le plus fou, c'est que l'indice Green and Fear est brièvement passé en zone extrême fear. En gros, on a super peur parce que le Nasdaq perdait 1%. On est dans un monde où on est tellement habitué à que ça monte que dès que ça baissote de 1%, on frise l'apoplexie et toutes les banques de New York et tous les hedge funds du Connecticut vont vérifier si toutes les fenêtres au-dessus du rez-de-chaussée sont bien verrouillées pour éviter les accidents. On est terrorisé, selon l'indice Greed and Fear, mais quand on écoute les pros de la finance mondiale, on continue de nous dire que tout va bien et que la seule chose qu'il faut se souvenir, c'est de mettre en application la stratégie du buy the dip, un dip correspondant plus ou moins à une baisse de 0,5% sur Nvidia. Mais du côté de l'Europe, Paris a terminé la séance en baisse de 0,63% dans un contexte européen un peu grippé. Moins 0,7% pour le DAX, moins 0,8% pour l'Eurostock 50. Bref, tout le monde a la gueule de bois après les records de la veille pour le marché français. La grosse claque du jour vient de L'Oréal qui a plongé de près de 7%. Le géant du glamour a publié un chiffre d'affaires de 32,8 milliards sur 9 mois, soit une hausse timide de 1,2%, pas catastrophique, mais un peu en dessous des attentes, surtout à cause de l'Amérique du Nord qui a perdu son éclat. Pour faire simple, le gloss brille toujours, mais le vernis commence à s'écailler dans les bords. Même ambiance chez Hermès qui perdait 2,3%, alors qu'en théorie tout va bien. Le cellier de luxe a encore rempli ses coffres, 3,88 milliards d'euros de ventes au Q3, en hausse de 9,6%, mais le marché, lui, s'attendait à plus. Encore une fois, bien sûr, très exigeant le marché. Les bourses asiatiques étaient dans le rouge ce matin, histoire de faire comme les Américains. C'est le Japon qui fait la course en tête ce matin avec une baisse de 1,5%. Et ensuite vient la Chine et Hong Kong avec plus ou moins 0,7% de baisse. Ne cherchez pas la justification de ces ventes matinales. Encore une fois, c'est toute la faute de Trump. Et le retour des tensions commerciales entre Washington et Pékin pousse à la dépression jusqu'au prochain coup de vent. En Corée, le Kospi a chuté de 1%. La Banque centrale ayant maintenu ses taux inchangés. L'ensemble de la région a donc suivi naturellement la baisse de Wall Street plombée par les résultats mitigés et la chute du bénéfice de Tesla. On va y revenir. Du côté de l'or, ça continue à presser du côté des vendeurs et ça tourne autour des 4100. Tout le monde semble convaincu que ça peut remonter, mais en même temps, on a quand même un peu peur que ça aille plus bas avant d'aller plus haut. C'est fou comme ça se complique quand ça ne fait pas que monter. Et puis il y a le pétrole qui s'emballe à nouveau et encore une fois, c'est la faute de Trump. Cette fois, c'est avec Poutine qui se fâche et visiblement, il n'y aura plus de meeting avec le président russe parce qu'il refuse de plier les Chines face aux doléances de son homologue américain. Donc là aussi, il nous fait souffler le chaud et le froid. Pour le moment, le meeting au sommet qui était prévu à Budapest tombe à l'eau et en plus, le trésor américain vient d'imposer de nouvelles sanctions contre Rosneft et Lukoil, accusant Moscou de ne pas vouloir mettre fin à la guerre en Ukraine. Résultat immédiat. Le pétrole s'envole de près de 3% avec un WTI à 60,24. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent appelle à un cessez-le-feu immédiat tout en promettant d'autres mesures si nécessaire. Le package sanctions et annulation du meeting s'accompagne de pression sur l'Inde pour qu'elle cesse d'acheter du brut russe. Et pendant ce temps-là, Poutine lance de grands exercices nucléaires. Quand on voit la tripotée de débiles qui nous gouvernent, on se demande où se trouvent les gens censés, normaux, agréables et intelligents. Quant au Bitcoin, il est à 108 800 et le rendement du 10 ans est à 3,96. Dans les publications, ce que l'on retiendra d'hier, il faut que l'on revienne sur Tesla, bien sûr, mais également sur IBM. Chez Tesla, le moteur est un peu poussif, les profits plongent de 37% à 1,4 milliard, la marge fond comme de la neige en plein milieu du mois d'août, 5,8%, et les crédits carbone s'évaporent, moins 44%. Mais le chiffre d'affaires, lui, bat un record, 28,1 milliards, parce que les Américains se sont rués sur les voitures avant la fin du crédit d'impôt, du style « Vite, achetons une voiture électrique avant que Trump change d'avis ». Le problème réside dans les coûts qui explosent, des usines qui ne tombent pas à plein régime et Musk qui dépense comme si l'IA allait sauver le monde et son ego. Le titre reculait de 1,6% after close et les actionnaires commencent à angoisser avant l'Assemblée générale du 6 novembre parce que le patron demande un petit bonus de rien du tout, 1000 milliards de dollars sur 10 ans, soit une rallonge de 12% du capital. Et si on lui dit non, bah, il claque la porte et il ira jouer avec ses robots ailleurs. Pendant ce temps, IBM, le papy de la tech, sort 2,65 $ de bénéfices par action au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires 16,3 milliards en hausse de 9%. Dividende inchangé, mais ça n'a pas suffi. On attendait mieux et le titre plongeait de 6,5%. Et puis autrement, on a un nouveau titre qui vient de faire son entrée dans les mêmes stocks. Il s'agit de Beyond Meat, le fabricant de fausses viandes. Le 17 octobre, le titre valait 0,61 $ et hier soir, il est monté jusqu'à 7,69 avant de replonger et de finir à 3,58. Beyond Meat a ressuscité à la manière d'un miracle boursier. Le titre s'est envolé de plus de 600% depuis les plus bas de ces derniers jours. La cause est à chercher du côté d'un bon vieux short squeeze. Les vendeurs à découvert se sont fait griller comme des steaks de tofu trop cuits. Tout est parti de Reddit où des petits porteurs ont lancé l'opération Make BYND Great Again, en gros le retour du burger vengeur. Sauf que derrière le buzz, la réalité reste indigeste. Vente en baisse, marge en miettes et une dilution massive après un échange de dettes. Mais tant que le narratif fonctionne sur Reddit, tout peut arriver. Pour terminer, on revient sur le quantum computing. D'après plusieurs sources, la Maison Blanche plancherait sur un plan pour prendre des participations directes dans les entreprises de quantum computing. Les noms qui circulent sont bien sûr IonQ, Rigetti, Quantum Computing et D-Wave. Bref, des boîtes qui valent surtout en promesses plus qu'en profits. Comme pour Intel, l'idée n'est plus simplement de distribuer des subventions, mais d'entrer au capital. Washington veut ainsi s'assurer que les futures découvertes quantiques restent made in USA et pas en Chine. Une stratégie patriotique typiquement Trump. Le secteur s'était fait massacrer hier à cause de l'annonce de la sortie de la nouvelle puce Willow, un processeur quantique de nouvelle génération, un processeur qui peut réduire les erreurs exponentiellement à mesure qu'il monte en taille, un des gros verrous de l'informatique quantique depuis des lustres. Willow a aussi exécuté un calcul de référence en moins de 5 minutes, ce qui, selon Google, prendrait 10 septillions d'années à un superordinateur classique. Alors moi, j'avais déjà de la peine avec les billions, mais là, les septillions, ça devient compliqué. Tout ça pour dire qu'après une baisse généralisée sur le secteur à cause de Google, hier soir, tout le secteur reprenait 20% à cause de Trump, le hedge fund manager qui va finir par foutre des complexes à la BNS. Autrement, Roche vient de publier son trimestre et il limite la casse face aux biosimilaires, estimant désormais leur impact à 800 millions de francs contre 1,2 milliard au printemps. Mais la vraie claque vient du Francfort qui a amputé le chiffre d'affaires de 2,14 milliards et grignoté 5 points de croissance. Malgré tout, le groupe Balois reste optimiste. Il vise toujours 5% de hausse des ventes et relève légèrement son objectif de rentabilité à 10% et répond sur les marchés dans un moment. Pour ce qui est des chiffres du jour, on aura Intel, Unilever, Newmont, Ford, T-Mobile ou encore Honeywell qui publieront aujourd'hui. Et du côté de la macro, tout le monde attend le CPI demain. Et pour faire patienter, la BNS donnera son avis sur la situation actuelle de l'économie. Et il y aura les ventes de maisons existantes aux USA ainsi que les jobless claims si tout va bien. Actuellement, les futurs sont en hausse de 0,15% et on attend le prochain communiqué de X selon Trump parce que sinon, à quoi bon se lever? Excellente journée à tous. Désolé du retard, mais quand t'as 12 coupures d'électricité par heure, c'est pas simple de tenir un délai. À demain!